On va partager la parole de Dieu et nous allons continuer sur les trois étapes d'un bon témoignage. Et ce soir, avant de faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière, nous allons regarder une parole dans Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Il est dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Ici, il est dit que le juste a un fruit. Quand nous sommes justes, c'est-à-dire déclarés justes devant Dieu, c'est là où Dieu nous a parfaitement justifiés lorsque nous sommes venus au Seigneur Jésus. Il a fait de toi quelqu'un de juste. Quelqu'un qui a un droit légal de te présenter devant Dieu et de voir la face de Dieu le jour où tu vas mourir. La justice est une position. Une position que Dieu nous donne dans son royaume. Et l'inverse, c'est l'injustice. Et souvent, quand on parle de justice ou d'injustice, on voit des actions. On voit, tiens, ça, c'était quelque chose. Oui, il a été juste dans cette décision. Il a été juste dans cette action. Ou non, là, vraiment, ça a été injuste. Ce qui a été fait là, c'est injuste. Ça n'a rien à voir avec l'expression de juste et d'injuste de la parole de Dieu. Quand on parle, bien sûr, de notre position par rapport à Dieu. Le fruit du juste est un arbre de vie. Si tu es juste, tu vas porter des fruits. Ces fruits vont donner des arbres de vie. Et la Bible nous dit ici, le sage s'empare des âmes. Ou une autre traduction nous dit, c'est celui qui est sage qui gagne des âmes.
Des âmes
celui qui est sage gagne des âmes.
Arazana imishaha.
Gagne le cœur des gens et après les amène à Dieu.
Arazana imitima y'abantu kumana.
Celui qui a de la sagesse.
Umunyabwenge.
Je paraphrase pour mieux vous aider à comprendre le sens de ce verset.
Reka ngerageza kubivuga neza kugira ngo mutahure neza intumbero y'umurongo.
C'est-à-dire que celui qui a de la sagesse divine, c'est celui qui amène les âmes. Et qui amène évidemment les âmes à Christ. Donc le gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui a de la sagesse. C'est quelqu'un qui sait quoi faire, comment le faire. Quand il partage son témoignage, quand il partage l'évangile aux autres, nous étudions comment partager notre témoignage. Comment faire lorsque tu es en face de quelqu'un qui n'est pas sauvé et tu veux lui partager ce que tu as vécu? Parce qu'il te faut de la sagesse pour
cela.
Tu veux amener des gens à Christ. Il te faudra de la sagesse. Si tu as ce genre de témoignage, quand tu parles aux gens, j'étais catholique, je suis protestant maintenant. J'ai été baptisé, c'est pour ça que je suis sauvé. Un jour j'ai prié, Dieu a fait ça pour moi, donc je suis sauvé. Je vais à l'église El Shaddai, donc je suis sauvé. Je vais à l'église Shaddai, donc je suis sauvé. tout ça, ça ne vaut rien. C'est pas ça ce dont les gens ont besoin d'entendre. Les gens ont besoin d'entendre du vécu. Les gens ont besoin de savoir que Jésus est vivant. Que c'est pas une simple histoire qu'on raconte dans les milieux religieux. Mais Jésus est vraiment vivant. Et aujourd'hui, Jésus peut intervenir dans une vie quelle qu'elle soit. Pardonner le péché de l'être humain. Venir dans le cœur de cette personne. La transformer et lui donner l'assurance de son éternité. Et tout ça, il va falloir faire ressortir choses au travers de votre témoignage. Donc rappelez-vous toujours de ce verset. Celui qui est sage gagne des âmes. Ça veut dire celui qui est stupide dans son témoignage, excusez-moi l'expression, ne gagne pas d'âmes. Et souvent, malheureusement, quand nous commençons à parler de Jésus, nous faisons des erreurs. Et ces erreurs après nous coûtent cher. Parce que quand vous allez donner votre vie à Jésus, les premiers à qui vous allez témoigner, c'est à votre famille, aux gens qui sont autour de vous tous les jours. Ça peut être vos collègues de travail, ça peut être ceux avec qui vous étudiez à l'université, ceux avec qui vous êtes à l'école secondaire, vos voisins, vos amis proches. C'est le premier cercle à qui vous allez témoigner. Et malheureusement, souvent, c'est vers eux qu'on fait nos premières armes, c'est-à-dire qu'on fait nos premières bêtises. Et on est en train de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Donc nous sommes en train d'apprendre comment témoigner. Comment donner un témoignage équilibré. Parce que je vous rappelle que 1 Pierre 3,15, nous l'avions vu la semaine dernière, nous dit que nous devons toujours être prêts à rendre compte de notre espérance. Vous savez, il y a une différence entre avoir vécu quelque chose et savoir transmettre notre expérience. Et rappelez-vous que notre témoignage va se transmettre. Comme l'évangile se transmet. Et des fois, on peut vivre des choses super avec le Seigneur, mais on peut avoir du mal à les transmettre. Et ça s'apprend. C'est un grand mot qu'on utilise aujourd'hui, ça s'appelle la communication. C'est-à-dire apprendre à transmettre une connaissance
de
façon équilibrée, de façon sensée, de telle façon que quelqu'un puisse exactement comprendre ce que vous voulez dire. Et dans notre témoignage, c'est ce qu'il faut faire. Afin que les personnes qui sont en face de nous et qui nous écoutent puissent ouvrir leur cœur et qu'on sache les amener à
Christ.
Donc nous avons vu, il y a trois phases. Avant de recevoir Jésus, au moment où nous avons reçu Jésus, et qu'est-ce que nous vivons depuis que nous avons reçu Jésus? Alors je vous ai expliqué qu'il y a certaines erreurs qu'il faut toujours éviter. D'abord, rappelez-vous, la première chose qu'il faut faire, et surtout ce qu'il faut éviter, c'est que ce n'est pas notre église ou notre mouvement que nous présentons. On doit glorifier Christ. Notre témoignage doit transpirer la gloire de Jésus. Notre témoignage ne doit pas parler de notre église, mon baptême, etc.
Ce n'est
pas ça l'important. Les gens doivent se focaliser sur une personne. Jésus. La question que tu dois te poser quand tu rends témoignage, qu'est-ce qui transpire de ton témoignage? Ensuite, toujours faire ressortir les points positifs et non pas les points négatifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire et quelque chose qu'il faut éviter. C'est-à-dire faire ressortir les points négatifs, il faut vraiment l'éviter. Si aujourd'hui, il y a encore certains problèmes, ce n'est pas la peine d'en parler et chercher un conseil auprès de l'inconverti à qui tu veux témoigner. Moi, j'ai vu des gens comme ça parler de Jésus.
Et
ils étaient tellement tristes quand ils parlaient de Jésus que ça ne donnait vraiment pas envie. Ils étaient dans leurs problèmes et alors ils parlaient de Jésus. Oui, Jésus est grand, Jésus m'a sauvé. Bon, c'est vrai, maintenant j'ai encore beaucoup de problèmes. Je
ne
sais pas comment je vais m'en sortir.
Mais
tu sais, Jésus est le sauveur, viens Jésus. Ce que Excusez-moi de le dire, mais ça n'attire pas ce genre de choses.
Rappelez-vous
où vous attirez qui vous êtes. Et si vous êtes triste, malheureux, dans une extrême pauvreté ou dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir, tout un tas de problèmes. Vous aurez du mal parce que les gens vont vous observer. Alors ensuite, dites vraiment ce que vous avez vécu. Pas comme vous auriez aimé que les choses se passent.
Et
beaucoup de gens souvent essayent d'avoir un témoignage, de rajouter des choses sur leur témoignage, sachant que il y a des gens qui sont passés par des expériences très simples. Non, racontez les choses telles que vous les avez vécues. Dieu utilisera avec puissance réellement ce que vous avez vécu. Dieu n'utilisera jamais des demi-vérités. Et ne soyez jamais frustrés de ne pas avoir un témoignage. Ou vous étiez complètement dans la drogue, ou vous étiez dans de tels problèmes que vous étiez presque en train de mourir. Parce que la plupart des gens que vous rencontrerez, ils n'auront pas ce genre de problème, ils ne seront pas en train de mourir. Quelques-uns, vous leur témoignerez alors qu'ils sont en train de mourir.
Mais ce n'est
pas la majorité des gens. Donc ne soyez jamais frustrés d'avoir un témoignage très simple. Ensuite, soyez équilibrés. Pas deux minutes sur ce que Jésus a fait et une heure sur votre vie de péché.
Ou
alors racontez, j'avais sorti des CD qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, et puis j'allais dans toutes les boîtes de nuit, tout le monde me connaissait, j'avais tout l'argent du Burundi, enfin vous voyez les gens de
c'est
une grande vedette, tout le monde me connaissait. Vous aussi d'ailleurs. Non, moi je te connaissais pas.
Vous
voyez, il y a des gens qui essaient de faire pas mal de trucs comme ça. Raconter leur vie finalement comme si ils n'avaient pas vraiment besoin de Jésus, mais Jésus quand même les a sauvés. Alors, ne dites pas non plus, j'étais un affreux pécheur. Oh, terrible, il n'y avait pas de plus grand pécheur que moi. Mais maintenant, je suis saint et cinq fois saint. Faites pas ça parce que les gens vont vous observer, croyez-moi.
Et
le moindre truc que vous allez faire, ils vont vous dire, mais tiens, je croyais que tu étais vraiment complètement transformé comme quelqu'un d'exceptionnel. Ensuite, évitez le langage des chrétiens. Tout ce qui est compliqué, j'ai été lavé dans le sang de l'agneau, etc., vous oubliez, d'accord ? Les expressions comme la parole de Dieu, même pas. Vous utilisez la Bible, c'est plus simple. Vous ne dites pas il y avait un verset dans la Bible, vous dites il y avait un passage dans la Bible. Chose très très simple, simplifiez tout. Pas besoin de dire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, dans la deuxième partie nous dit que.
Non, ça
va si on se parle entre chrétiens, on comprend. Vous êtes en face d'un pécheur. Lui, il connaît rien à deux quoi, deux coco quoi, deux rococo. Il va vous dire ton truc, ça ressemble comme le coq pendant le matin qui fait coco-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-
ntakijijwe ntabimenyereye.
N'oubliez pas, remettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'est pas sauvé.
Niwibagire wamugaragaza kusa nawe kwishushanya n'umuntu adakijijwe.
Ça c'est la chose au départ la plus difficile.
Iki nico mu ntango usanga kigoye.
Plus ça fait longtemps qu'on est en Christ.
Uzuraba uko tumara igihe kiregere turi muri Kristo.
Ça fait longtemps qu'on a oublié comment les pécheurs raisonnent et se comportent.
Niko usanga tugana turibagira ingena abanyavyaha biyumvira kandi babaho.
Et souvent, quand on témoigne, on a tendance à dire, on va lui parler comme un chrétien.
Mais
il faut que tu, Il ne faut pas que tu oublies qu'il n'est pas chrétien.
Ariko nitukibagire yuko sumu Kristo
akijije. Je suppose qu'il ne connaît strictement rien.
Fata yuko atana kimwe azi.
Donc c'est très important quand nous témoignons.
Urumva birakene ko iyo dushize ntare.
Très simple.
Tuvuga ibintu ntuvuga bisanzwe.
Si vous parlez d'église évangélique, ils vont dire c'est quoi une église évangélique.
Utamugiye kumubwira iby'amashengero yo ameze gucya nameze gucya nashobora kubitahura.
C'est très très simple.
Nugaragaza kuvuga ibintu mu buryo busanzwe.
Les gens ont besoin, vous avez besoin de concentrer les gens sur Jésus.
Abantu cyo bakeneye kumva ni Yesu.
Avec un langage qu'ils peuvent comprendre.
Mu rurimi bashobora gutahura.
C'est très très simple.
Mu buryo busanzwe.
Alors nous avions vu avant de recevoir Jésus.
Ah twarabonye rero mbere yo kwakira Yesu.
Et d'abord expliquer votre arrière-plan, vos croyances.
Urumva ukavuga ngene wari umeze ngene wizera.
Si vous alliez à l'église traditionnelle, n'oubliez pas que l'église catholique, faut oublier, n'utilisez pas cette expression. Parce que les gens tout de suite vous sortiront le bouclier, tu veux me faire changer d'église. Donc évitez ce piège, parce que là tout de suite, ils vous cerneront. Et c'est toujours une question où ils reviendront. Donc tu dis, j'étais à l'église traditionnelle, un peu comme tout le monde, je priais. Oh, vous avez très bien d'ailleurs parlé à la Burundaise. Comme tous les Burundais, on allait le dimanche à l'église.
Et
les gens comprendront tout à fait ce que vous voulez dire. Il
n'y
a pas besoin de dire plus. Par contre, après, vous rajoutez le « mais ». Mais après, un peu comme tout le monde, vous voyez, vous essayez de souvent de vous identifier à la masse. Parce que la plupart des gens, c'est ce qui s'est passé. Ils ont une sorte d'arrière-plan religieux, mais qu'ils ont lâché à l'adolescence. Et la plupart des gens, après, se sont mis dans le péché à fond. Mais un jour, ils se sont donnés au Seigneur. Ou alors, ils étaient persuadés que la religion allait leur faire du bien. Et ils étaient insatisfaits. Mais il y a quelque chose, il faut expliquer ce qui n'allait pas en vous. Le vide intérieur, le péché qui vous rendait esclave. Le manque de réponse devant les questions de la mort. Une déception, une tragédie. Quoi que ce soit, qui puisse vous permettre vraiment de montrer en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça c'est clair. Vous aviez peut-être des questions, mais qui vous par rapport à la vie d'une manière générale. Je me demandais pourquoi j'étais sur cette terre.
Et
je ne savais pas où j'allais. Tous les matins, je me levais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Mes études, ça marchait bien ou ça marchait pas? Ça dépend dans quel côté vous étiez. En tout cas, donnez quelques détails là-dessus. Ça aidera beaucoup les gens à s'identifier à vous. Alors, là, il va falloir expliquer, donc, dans la deuxième partie, comment vous avez rencontré Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Vous n'avez pas rencontré Jésus comme ça parce que vous marchiez sur la route et d'un seul coup, vous avez dit « Il faut que je me repente de mes péchés et accepter Jésus. »
Non,
ça
ne
s'est pas passé comme ça. Il y a eu tout un cheminement personnel. Des questions. Des réponses. En fait, ce qui s'est passé, et ce qui se passe pour tous les êtres humains, le Saint-Esprit met des années avant de trouver notre cœur. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils sont là, ils vivent leur vie. Ils vivent certaines choses, des bonnes, des mauvaises, des excellentes, des affreuses. Toutes sortes de choses, nous sommes des êtres humains. Il y a des choses qui, bon, ne nous affectent pas beaucoup. Il y a des choses qui nous démolissent. Nous vivons tous des bonnes et des mauvaises choses. Et là, nous grandissons dans ce monde. On n'a pas demandé à Dieu de venir dans ce monde, nous sommes venus dans ce monde. Nous grandissons dans ce monde. Et finalement, nous nous posons des questions. Quand nous commençons à grandir, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte,
ibirenge gukura
on commence à prendre des décisions
umuntu agatangura gufata ingingo zimwe na zimwe
on fait de bonnes choses
tugakora ibintu byiza
fait des choses catastrophiques
n'ibindi bitari byiza
et tout ça ça fait partie de notre vie
ibyo byose biri hehe mu buzima tubamwo
et là il y a des moments
on
entend qu'il existe un Dieu. Mais pour l'instant, il est loin.
Il
y a des moments aussi où peut-être on vit des choses difficiles. Et puis on va prier. Et on va voir Dieu qu'on ne connaît pas. Agir dans notre vie. Un jour tu es là peut-être, c'est peut-être ton témoignage, peut-être pas, mais c'est peut-être une partie de ton témoignage. Tu étais là peut-être enfant, tu étais là en train de prier peut-être pour une des premières fois. Et là il y avait quelque chose qui te tenait à cœur de particulier. Et tu as prié avec les mots de l'époque. Et Dieu est intervenu dans ta vie. Et puis tu as continué ton chemin. Et tu as oublié cette expérience. Mais sache une chose. C'était quelque chose que Dieu mettait un jalon, une borne. Pour petit à petit placer d'autres bornes. Sur le chemin de ta vie. Pour que tu arrives à trouver le salut. Et ça parfois ça met des années. Le Saint-Esprit nous cherche pendant des années. Il cherche par un moyen ou par un autre. Un jour tu te poses une question, ton cœur est vide. Tu attendais quelque chose qui allait se passer, un excellent événement, et rien ne s'est passé, tu étais trop déçu. Peut-être que tu étais quelqu'un qui était suicidaire, c'est-à-dire que tu voulais te donner la mort tellement tu avais été déçu par quelque chose. Peut-être que tu étais malade. Peut-être, il y a plein d'autres choses que nous avons vécues. Mais nous avons tous vécu des choses avant de venir à Jésus. Des choses qui nous ont d'abord prouvé l'existence de Dieu. Et ensuite, quelque chose de très important. Des choses qui nous ont amené à être petit à petit convaincus que Dieu pouvait intervenir dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de chaque témoignage. Donc, il va falloir que tu cherches quels ont été ces jalons, quels ont été ces repères. Il y a eu un moment où tu vas prendre ta décision. Mais cette décision, parce qu'elle t'a amené au miracle de la nouvelle naissance, n'est pas quelque chose qui s'est produit comme ça. Tu étais vraiment sous tout un tas de pression et tu étais convaincu que Jésus était la vérité. Maintenant, tu dois savoir pourquoi. Tu es arrivé au moment, au point particulier dont on va parler dans quelques minutes, où tu as pris la décision de te repentir et d'accepter Jésus. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, tu as crié de tout ton cœur et Dieu de son ciel t'a répondu et t'a pardonné ton péché et a fait de toi une nouvelle création? Qu'est-ce qui a fait cela? Cherche sous quelle pression tu étais. Cherche qu'est-ce qui t'a convaincu de la vérité. Cherche le malaise qui était en toi et qui te tourmentait. Cherche toutes les questions que tu te posais devant lesquelles tu n'avais aucune réponse. Tout ça, ça fait partie de ton témoignage. Ça, ce sont des choses devant lesquelles tu es unique et tu as un témoignage unique. Dieu n'a pas touché ta vie par hasard. Il l'a touché à un moment particulier où tu étais prêt. Où tu étais convaincu que si tu mourais, tu allais en enfer. Où tu étais convaincu que ce qu'on te disait sur Jésus, c'était la vérité. Et que tu étais convaincu qu'il fallait que tu prennes la décision maintenant. Que c'était un moment crucial pour ta vie. Ça fait partie de ton témoignage. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. Personne parmi nous n'a vécu exactement la même chose. Nous
ne
sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi tu dois chercher dans ton témoignage les points forts
ibintu uravuga nyamukuru
qui t'ont amené à comprendre que tu étais pécheur.
Byagutumye utahura ku bwawe uri umunyabyaha.
Les points forts qui t'ont amené à croire le message de la bonne nouvelle.
Ibintu nyamukuru byatumye wizera ubutumwa bwiza bwa Yesu.
Peut-être qu'un jour tu as vu quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps.
Kumbura umuntu mwabonye umuntu utaruherutse.
Et puis cette personne t'a parlé de Jésus.
Uwo muntu akubwira ibya Yesu.
Parce que déjà tu avais remarqué que elle avait complètement changé. Et peut-être que ce jour où elle t'a parlé de Jésus, tu t'es dit après tout, ça
ne
m'intéresse pas. Tu ne l'as pas cru.
Mais
sache une chose, cette personne, elle a certainement prié pour
toi ce jour.
Moi, je sais où j'ai entendu l'évangile les premières fois de ma vie. C'était quand j'étais un adolescent perturbé qui fuyait par toute la terre. Je voulais parcourir toute la terre parce que je pensais qu'il y avait certainement un endroit où on pouvait être heureux.
Et
ce que je ne réalisais pas, c'est que le malaise, je le transportais en moi. Alors à chaque fois que je me déplaçais, le malaise se déplaçait avec moi. Et Dieu a voulu me prendre au Canada. Et aux États-Unis. Mais j'ai dit non. J'ai pris les gens qui m'ont parlé de Jésus pour des fous. Je me souviens, j'avais fait 30 000 km en stop comme ça. J'avais travaillé un an dans une banque. J'avais mis un peu d'argent de côté. Et j'avais dit, la société est pourrie. Tout le monde est mauvais. Il faut que je trouve des gens meilleurs.
Et
je ne sais pas pourquoi j'ai voulu aller sur le continent américain. Y a-t-il des gens meilleurs sur le continent américain? Vous savez, quand on est pécheur, on ne sait pas.
Mais
on ne sait pas. On cherche quelque chose. Moi, je pensais chercher quelque chose.
Et
en fait, je cherchais quelqu'un. Mais je ne savais pas.
C'était
peut-être ton cas.
Des
fois, on cherche à côté. On est là en train de se focaliser sur quelque chose. Et Dieu est juste à côté de nous. Et il attend le bon moment. Il va te dire, tu me cherches.
Au début, tu dis,
non, c'est pas toi que je cherche. Je cherche quelque chose. Et d'un seul coup, tu ouvres les yeux. Parce que tu es tourmenté dans ton cœur. Et Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Et deux fois, alors que des gens m'avaient pris dans leur voiture, je
ne
savais pas où j'allais. Alors j'avais pris une décision. J'étais à l'est, j'avais atterri à New York. Et je me suis dit, après tout, allons à l'ouest, aussi loin qu'on puisse aller.
Wild West.
J'étais monté au Canada, vers Montréal.
Muri West, achagenda, muri Canada, Montréal. Yisabira lift.
Pendant 3 mois, j'ai fait ça.
Ameza tatu yos.
J'ai traversé tout le Canada.
Ajavoka Canada yos.
Je prenais mon bain dans les lacs canadiens.
Agenda ariyogera muruzi muri muri
Je dormais sous une tente que je portais moi-même sur mon sac à dos. Je
ne
savais pas ce que je cherchais. Je cherchais quelque chose qui se déplaçait. J'avais un malaise qui se déplaçait avec moi.
Alors
je rencontrais des gens. Vous savez, sur la route, on rencontrait toutes sortes de gens. J'ai rencontré des
drogués.
J'ai rencontré des prostituées. J'ai rencontré des homosexuels. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens, il y avait même un businessman qui m'avait transporté. Il avait une grosse bagnole. Et puis je me souviens, il avait un gros menton comme ça, un double menton comme ça. Un nez un peu crochu comme ça. Il avait plein d'argent, ce monsieur. Mais il vivait une vie terrible. Et il m'avait dit, mais tiens, t'as l'air pas trop mal, pourquoi tu pourrais pas travailler pour moi?
Il me
disait, je vais bien te payer. Tu auras toutes les filles que tu veux. Tu
n'auras
plus de problème.
Si, il me
disait, qu'est-ce que tu fais là? Tu traverses le Canada, pourquoi faire? En fait, je
ne
savais pas pourquoi. Parce qu'il y avait un malaise. Puis un jour, sur cette route du Canada,
alors
que j'étais plus qu'au milieu, ou presque aux trois quarts du Canada, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui parlait anglais, et comme il a vu que je parlais très mal anglais à l'époque, il s'est adressé à moi en français. Il m'a dit, tu sais, je suis d'origine québécoise. Et il me dit, je vais dans un endroit, tu vois, il y a un dîner, tiens, si t'as faim, viens, on va à un dîner.
Et
il m'a invité à un dîner des hommes d'affaires de plein évangile.
Et
puis bon, alors il y avait des gens qui parlaient, ils m'interprétaient, je ne comprenais pas l'anglais à l'époque.
Et puis
il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux dormir chez moi. Et puis, on arrive dans son salon, c'était un petit appartement. Je pense
qu'il
y avait toujours
deux.
Il m'a montré son canapé. Il m'a dit, tu sais, c'est Dieu qui m'a donné ça. Je dis quoi, c'est Dieu qui
donne.
Je dis, c'est complètement fou le type. Et il me dit, tu sais, j'étais drogué.
J'étais drogué.
Ma vie était foutue. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai tout perdu. Mais tu vois, Dieu m'a donné ce canapé. J'ai dormi une nuit chez lui. Après, j'ai fui. Mais je sais que je le verrai au ciel, lui.
Et
je dirais merci parce que tu as prié pour moi. Vous voyez, quand vous commencez avec le Seigneur, il y a des choses étonnantes qui se passent. C'est quelque chose que je vais vous expliquer qui est important dans votre témoignage. Des fois, il y a un événement que vous vivez quand vous êtes petit. Après, il
ne
va rien se passer pendant des années. Et puis après, vous allez revivre quelque chose. Et puis après, vous allez oublier Dieu. Et puis après, vous allez revivre quelque chose. Et puis d'un seul coup, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans votre vie. Et ça va aboutir sur Jésus. Ça, il faut vous déterminer dans votre vie.
Et
à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'accélérer. On m'a parlé de Jésus une fois. J'ai rejeté. J'ai continué ma route. Je crois que à cette époque-là, oui, on descendait légèrement aux États-Unis. Juste en dessous de la frontière canadienne. Et là, il y a une fille qui me prend en stop.
Et je me souviens
toujours, elle avait un petit... J'ai pas beaucoup de mémoire sur les événements passés, mais ça, je m'en souviens. Elle avait un, ce qu'on appelle un sticker, c'est un autocollant. Et alors, il y avait marqué
«
I ». Il y avait marqué quelque chose que je ne comprenais pas. Et Jésus. Alors, par curiosité, j'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors, je parlais très très peu anglais, alors il m'a expliqué vaguement.
Elle
m'a montré une Bible.
Je me suis
dit, ça y est, décidément. Dans ces pays-là,
ils
sont bizarres. Donc, elle m'a laissé. En fait, c'était le mot I believe, je crois en Jésus. J'ai continué ma route. Je suis monté tout en haut, parce qu'après, une fois que j'étais arrivé de l'autre côté de l'océan, je me suis dit quand même, maintenant il faudrait que je descende vers la Californie. Jusqu'au sud maintenant, je pars vers le sud. Je suis descendu vers le sud. Et sur la route, il y avait un type qui m'a pris. Cheveux longs, moustache, charrette. Et il y avait un autre type avec lui qui était un alcoolique fini. Et alors, évidemment, il n'y avait pas que des cigarettes qu'il fumait, il fumait aussi beaucoup de drogue. Ce monsieur m'a conduit pratiquement du nord au sud des États-Unis. Je suis resté chez lui quelques jours, chez sa mère. Parce que souvent les drogués ils sont chez maman.
Hein.
Et alors il m'a dit, pourquoi t'as envie de voyager, si tu veux, moi je vais en Alaska, donc tout là-haut. Je J'ai dit, tiens, pourquoi pas, ça ferait un peu d'aventure.
Et
là, on est parti, il avait une camionnette.
Là.
Et alors, on est parti de Californie, dans le sud des États-Unis, pour aller tout dans le nord du Canada. Et moi, je ne savais pas ce qu'il allait faire là-bas, en Alaska. Et sur la route, j'ai découvert. En fait, il savait qu'en
Alaska,
on pouvait faire pousser légalement de la drogue. J'ai dit, ça y est, j'ai encore tombé sur les bonnes personnes. Et le mieux, c'est que j'ai voyagé derrière la camionnette. Et la route était très poussiéreuse.
C'était terrible à cette époque.
On a fait, je sais pas, au moins 2000 km comme ça.
Et
alors, j'étais derrière la camionnette,
assis,
derrière la camionnette, pas dans la cabine devant, derrière la camionnette. Et il avait un chien.
Alors
le chien, il faisait... Je me suis dit, quel voyage. Je suis reparti, je suis redescendu, j'ai retraversé le Canada. Et j'arrive au Québec. Toujours pareil. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui me prend. Et juste à la fin, il descend de sa voiture, il dit, voilà, moi je m'arrête là, toi tu vas de l'autre côté. Nos routes se séparaient.
Et
il commence à me tendre quelque chose. Et il me dit, voilà, tu sais, ça m'a beaucoup aidé, je vais te le donner.
J'ai
regardé comme ça.
J'ai
dit,
c'est
quoi? Oh, c'est un Nouveau Testament.
Je dis,
c'est pas vrai. Je dis, non, tu sais, ça ne m'intéresse pas.
Et
je suis parti. J'arrive en France. Ça recommence.
Quelqu'un
va me parler de Jésus.
Et
c'est là où je vais donner ma vie à Jésus.
Et
je vous garantis d'une chose. Je sais
que
c'est trois que j'ai rencontrés là-bas. Ils ont prié pour moi. Et je sais qu'après. Parce qu'en France, entendre l'évangile, le pourcentage de chances où vous pouvez entendre l'évangile sur le continent américain ou ici en Afrique ou en France, il y a très peu de chrétiens. Tomber sur quelqu'un qui va vous témoigner de Jésus, là vraiment, c'est que le Seigneur vous cherche. Et Dieu me cherchait. Et quelques mois après ça, j'étais tellement mal. Quand je suis revenu en France, j'étais mal. J'étais parti pour l'aventure extraordinaire et je revenais exactement avec le même environnement que j'avais quitté. Là, j'étais déçu. Là, c'était le grand coup pour ma vie. Je me suis dit, je vais tout trouver là-bas.
Mais
je n'avais rien trouvé de plus. J'ai réalisé une chose. C'est que le malaise que j'avais ne venait pas des autres, mais il venait de mon cœur. Et pour moi, ça, c'était un point important. Donc, on a tous des points importants.
Il y
a un moment où Dieu met des jalons.
Et
il y a un moment où ça va s'accélérer. Et après, on va prendre des décisions. Alors, on rencontre quelqu'un. Et puis, à ce moment-là, c'est un couple qui nous parlait du Seigneur. Et ces gens-là, ils parlaient tout le temps de Jésus.
Mais
ça m'énervait. C'est énervant quand on n'a pas envie d'entendre parler de Jésus et qu'on vous parle tout le temps de Jésus. Et là, ça m'agaçait. Et bon, comme c'était un collègue de travail d'Isabelle,
ils
les invitaient. Ils nous parlaient de leur Jésus. Et tout le temps, leur Jésus. Il nous racontait son témoignage. Le monsieur nous racontait tout un tas de témoignages. Et au bout d'un moment, il y avait une conviction qui est venue en moi. Je savais, impossible à expliquer ça, que ce que cet homme avait vécu, je pouvais moi le vivre aussi. Parce que la question est, à partir du moment où vous témoignez de Jésus, les gens vont vous dire, c'est bien pour toi.
Mais
pour moi, je ne sais pas. Toi, tu as la chance, tu peux croire.
Et
j'aimerais bien être comme toi. Et c'est là où le Seigneur veut mettre une conviction. Que l'évangile, c'est pour tout le monde. N'importe quelle personne qui va ouvrir son cœur peut recevoir Jésus. N'acceptez jamais un discours où les gens vous diront « Ah, toi, tu as de la chance, mais moi, tu vois, j'essaye de croire, ça ne marche pas. » Et il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils le pensent et ils vont en enfer. Ça, c'est un mensonge du diable. Moi, j'étais convaincu de ça. Par contre, j'avais pas encore la foi. Je savais
que
ce qu'il me disait, c'était la vérité. Impossible, je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Impossible de savoir d'où ça venait, mais je savais. Je savais que c'était la vérité, mais je n'avais pas trouvé la vérité. Parce qu'il y a un temps, justement, où vous êtes convaincu de la vérité, mais vous n'êtes pas encore sauvé. Par contre, il y a un moment où vous prenez votre décision. Vous voyez, vous devez bien repérer, comme je le disais tout à l'heure, les jalons d'abord. Cette route qui vous amène petit à petit à l'évangile. Ensuite, cette période où il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer pour votre vie personnelle. Ou d'un seul coup, vous allez être bouleversé. Vous voyez quelqu'un, il vous témoigne de Jésus et vous dites, mais vraiment, vous n'osez rien dire, mais à l'intérieur, vous êtes secoué. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit, après avoir témoigné de Jésus,
il
vous a dit, je vais prier pour toi. Il a prié pour vous. Vous avez été guéri. C'est bien, mais ça, ce n'est pas votre témoignage de conversion. Ne mélangez pas les deux, faites attention.
Ce
n'est pas ça, c'est pas le moment où vous avez été sauvé. C'était quelque chose qui s'accélérait dans votre vie, mais qui était encore une preuve que Dieu était vivant et qu'il intervenait directement dans votre vie. Mais ça,
ce
n'est pas votre salut. Maintenant, je vais venir sur comment décrire correctement le moment où vous avez été sauvé. Le quand, où et le comment vous avez été
sauvé.
Il y a beaucoup de témoignages que j'entends qui ne sont pas, qui sont très, je dirais, qui décrivent très mal cela. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Ils vous racontent des expériences comme ça avec Dieu au départ. Et puis après, ils vont vous dire, j'étais à l'église El Shaddai. Et puis je me suis approché. Et gloire à Dieu, je suis sauvé. Non,
ce
n'est pas ça que vous avez vécu.
Sivyo.
Ça, c'est l'extérieur.
Ibyo
j'étais dans une croisade.
Le
prédicateur prêchait bien.
Hein.
Je levais ma main. Et maintenant, je suis sauvé. Mais non, parce que la personne, elle va penser qu'il va falloir qu'elle aille dans une croisade, qu'elle lève la main et qu'elle sera sauvée. Et ça, c'est pas le salut. Non, 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 il s'est passé quelque chose. Maintenant, où, quand et comment? Quel jour ça s'est passé? Où est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Vous avez eu tous ces jalons, Dieu a commencé à travailler en vous.
Il y a
un jour J, une heure H, une minute M, une seconde S.
Vos
péchés ont été pardonnés. Et Jésus est venu vous habiter en vous et vous sauver. Ça, il faut que vous sachiez le décrire. C'est quelque chose de très important. Sinon, les gens vont vous dire, ah, t'étais malheureux, t'as été à l'église, maintenant ça va mieux. Ah,
oh,
ça va mieux. Tu pries. Ah, ben moi, tu sais aussi, je prie. Ça, c'est pas le salut. Et beaucoup de gens confondent. Non, il y a un moment. Peut-être que tu étais à la maison. Moi, j'étais chez moi. J'avais déjà été à l'église. Je m'étais même approché à un appel. On avait même prié pour moi. J'avais même répété la prière du pécheur. Mais
ce n'est
pas ça. Avec ça, j'ai été sauvé. Je me souviens, j'étais chez moi. Allongé sur mon lit. J'étais seul. J'ai dit à Dieu. Dieu, ça fait un mois que je t'appelle.
Seigneur,
je ne comprends pas parce que j'avais cette conviction qui me tourmentait.
Je
savais que j'étais pécheur. Je savais que ce qu'on m'avait dit, c'était la vérité. Je commençais à lire la Bible, je commençais à prier, mais ce
n'est
pas ça. Ce jour-là, j'étais là et j'ai vraiment ouvert mon cœur.
Et
j'ai dit à Dieu, Seigneur, viens, ma vie est une ruine. Je te demande pardon pour mes péchés.
Révèle-toi
à moi. Et ce jour-là, quand j'ai fait cette prière, quand j'ai dit à Jésus que je croyais en lui, j'ai imploré sa grâce. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose à
l'intérieur.
Et c'est ça que vous devez décrire. Cette expérience personnelle. Ce moment particulier. Que vous devez bien revoir dans votre vie. Et qu'il faut que vous appreniez à communiquer correctement pour pas que les gens se méprennent sur le salut. Parce que c'est ce qu'on a souvent, malheureusement. Des gens vont simplement dire que j'étais à l'église, j'étais dans un groupe de prière, on a prié pour moi et je suis sauvé. Mais dites-moi où c'est marqué dans la Bible. Non, c'est pas ça. C'est vraiment ce moment où vous avez crié à Dieu.
Et
votre cœur était ouvert. Vous aviez la foi dans le cœur. Et là, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, vos péchés ont été pardonnés. Et ça se ressent à l'intérieur de nous. Quand nous avons la paix avec Dieu, d'un seul coup, ça se ressent. Et c'est ça que vous devez décrire. C'est ça que vous devez chercher dans votre
témoin.
Si ça s'est fait à l'église, vous pouvez dire voilà. J'avais eu des amis qui m'ont parlé de Jésus. J'avais prié un jour, voilà ce qui s'est passé. Tout ça, vous pouvez le dire. Et un jour, je suis venu à l'église parce qu'on m'avait invité. J'ai entendu quelque chose. Et d'un seul coup, dans mon cœur, voilà ce qui s'est passé. Et quand on a demandé à ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus de s'approcher, je
ne
sais pas pourquoi, je me suis approché. J'ai senti comme quelque chose qui me poussait. Ça, c'est un témoignage, mais attendez. Quand tu t'es approché, quand tu as prié, quand on a prié pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, tu dois le décrire. Tu dois apprendre à le dire. Tu dois te rappeler de ce qui s'est passé. Comment tu as senti que le poids de tes péchés est parti. Et que d'un seul coup, Jésus est venu dans ton cœur.
Yes, yes, tu
étais peut-être dans une réunion de prière, dans un groupe de prière, et tu avais entendu des témoignages qui t'ont touché. Et au moment même où on a commencé à inviter les gens, à demander est-ce que vous êtes vraiment sauvés, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Il s'est passé quelque chose.
Tu n'es
pas né de nouveau comme ça. Par hasard. Mais il s'est passé quelque chose de précis. Décris-le, tu as peut-être entendu une voix dans ton cœur. Ça, tu dois le décrire, c'est important. Les personnes ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin d'entendre comment tu as vécu ton expérience de salut. Ça, c'est très important à décrire. Moi, quand j'étais sur mon lit ce jour, j'ai senti comme un poids immense. J'ai senti comme une sorte d'électricité qui
venait
sur moi. Je savais. Jésus était entré dans mon cœur. Je savais qu'il était vivant. Je savais que j'étais sauvé. Ça, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Mais toi,
tu as
peut-être vécu quelque chose un peu différent. Le résultat est le salut. Mais c'est ce jour-là
qui est passé.
C'est ce moment-là que tu dois décrire. Cette rencontre. Parce que si tu dis aux gens, tu sais, tu peux rencontrer Jésus.
On
va te dire, c'est quoi son numéro de téléphone? C'est quoi l'adresse de Jésus? Oui, il risque de faire de l'humour. Si vous n'expliquez pas ce que vous avez vu. Et ça, c'est un piège souvent dans lequel les gens tombent. Donc, il faut expliquer, exprimer exactement ce que tu as vécu à ce moment-là. Ça, c'est très important. La dernière phase que vous devez aussi expliquer, c'est prenez un certain nombre d'expériences que vous avez vécues avec Jésus. Ne dites pas, tu sais, venir à Jésus, après, tu n'auras plus jamais de problème.
Non.
Tu fais face à certains problèmes. Mais maintenant, tu sais que tu as le Seigneur avec toi. Tu sais qu'il habite en toi. Tu sais qu'il habite en toi. Tu sais que cette paix ne t'a jamais quitté depuis. Montre ton assurance du salut. J'ai eu une question comme ça très récemment, il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut être sûr? Parce que je partageais comme ça et la personne me dit, est-ce qu'on peut être sûr d'être sauvé? Les gens vont vous voir parler. L'assurance du salut est quelque chose d'indispensable à exprimer. Quelqu'un qui est sauvé, il sait où il va. Et ça, c'est quelque chose que tu dois dire à la personne en disant, tu sais, moi maintenant, si je meurs, je sais où je vais. Avant, j'avais la trouille de la mort. Et ça, tout le monde s'identifie à ça. Et ça, c'est normal. Mais tu peux dire, maintenant, je sais qui est là. Tous les jours, je sais qui est là. 24h/24. Si vous parlez à un bon catho, ne lui dites pas, tu sais, maintenant, toi, tu ne connais rien, mais maintenant, tu peux connaître Jésus. Dites jamais ça à un catho, parce que là, il va vous fermer la porte. Dites-lui, tu sais, tu peux connaître Jésus d'une façon très différente, personnelle. Jésus peut devenir personnel. Et moi, je vais t'expliquer ce que j'ai vécu. Là, le catho, il va t'écouter. Si tu dis, non, vos histoires de mari, de saint et de trucs, ce n'est pas vrai, la Bible dit que c'est faux. Tu dis ça à un catho. Il te dit, bye bye, protestant. Et ça, c'est normal, parce que tu le heurtes dans sa croyance. Non, tu dois amener la personne. Si elle a déjà une croyance, tu sais, tu peux faire une expérience personnelle avec Jésus. Les histoires de doctrine, ça tombera tout seul si la personne naît de nouveau et qu'elle a un bon cœur pour marcher avec
Jésus.
Mais explique-lui comment tu vis ta foi. Si pendant ces années tu as vécu certaines expériences, tu les notes quelque part. Je vous encourage vraiment à écrire votre témoignage. À écrire ce que vous étiez avant. À décrire comment Dieu a mis des jalons, qu'est-ce qui vous a touché petit à petit. À décrire votre expérience au moment même où vous avez fait cette rencontre avec le Seigneur. Tu peux expliquer où tu étais, si tu étais à l'église ici ou dans une autre église, tu expliques, j'étais à telle église, ça c'est pas un problème. Mais ne dis pas simplement, j'étais à l'église et je suis ressorti sauvé. Ça ne veut rien dire. Il faut t'expliquer qu'est-ce que tu as vécu. Donc c'est très important. Ensuite, écrivez un certain nombre d'expériences que vous avez vécues depuis que vous connaissez le Seigneur. Des choses marquantes que vous avez vécues. Comme ça, dans votre témoignage, vous êtes équilibré. Et les gens s'identifient. Ils voient que vous ne vivez pas une religion. Ne parlez pas de ce mot religion, jamais. Parlez toujours d'une relation. Relation avec Dieu. Parce que nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons Jésus. J'espère que ces deux enseignements vous ont aidé. Comprendre comment placer votre témoignage. Mais je vous encourage très fortement à prier par rapport à ça. Parce que souvent, vous savez, on vit une expérience de salut. Et très souvent, on a du mal à la partager avec les autres. Parce que soit on ne sait pas comment faire, soit on est maladroit. Soit peut-être on n'arrive pas à bien exprimer ce que nous avons vécu. Et vous demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que vraiment j'ai vécu ce jour-là? Montre-moi. Aide-moi à l'exprimer quelque part.
Et Dieu
va vous aider, le Saint-Esprit va vous aider dans ce domaine. Ça vous permettra de partager votre témoignage d'une façon simple, vivante, intéressante. Les gens vont s'identifier à vous. Et vous allez commencer à prier davantage pour les âmes
perdues.
Parce que je veux que vous soyez motivés pour amener les autres au Seigneur. Rappelez-vous d'une chose. Celui qui est sage
umunyabwenge
gagne des âmes.
Ahindura imitima myinshi.
Celui qui est sage
umunyabwenge
gagne des âmes.
Arahindura imitima.
Dans la sagesse
ubwenge
il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions gagner des âmes.
Burimwo byose bikene kugira ngo dushobore kuzana
imitima myinshi. Il faut que les âmes perdues viennent à Christ.
Birakene ko badakijwe baza kuri Christ.
Ça fait partie.
Kandi byo navyo biri.
Ça fait vraiment partie.
Biri by'ukuri
d'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici sur cette terre. Gagner des âmes à Christ.
Kuzana benshi kuri Christ.
Amen. Je vais prier pour vous, fermez vos yeux s'il vous plaît. Père, je prie pour ce peuple. Et je prie pour que tu aides chaque personne ici. À mieux comprendre son expérience de salut. À mieux décrire son expérience de salut. Je prie pour que tu, Seigneur, tu amènes de plus en plus de frères et sœurs ici. À comprendre leur responsabilité. Partager l'évangile de Jésus. L'évangile de Christ autour d'eux. Je prie pour qu'ils soient des exemples. Dans cette société. Parce que Seigneur, c'est bien aussi de partager, Seigneur, avec notre parole, l'évangile.
Mais
Seigneur, nous savons aussi que nos actions parlent plus que nos mots. C'est pourquoi je prie, Père, pour que tu trouves dans ce peuple un cœur qui cherche les âmes perdues, un cœur qui prie, Seigneur, pour les âmes perdues, pour voir de plus en plus, Seigneur, ceux qui sont en dehors, ceux qui sont dans les ténèbres, pouvoir venir à Christ. Père, je te remercie pour ce peuple, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.
Passez
une super soirée. Et travaillez votre témoignage.